Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond. Avec aujourd'hui Aurélie Fortin et Olivier Leroux à la technique, sans oublier France Bleu Provence, Emmanuel Klemberg, assisté de Sophie Ledoré, de Jean-Christophe Pinaza d'Annecy. C'est Xavier Pestudja qui réalise cette émission. Avec pour débuter une humeur qui nous voit rassurés au sujet de notre bonne étoile, le Soleil, qui était, paraît-il, en petite forme depuis un an et dont on nous annonce ces jours-ci qu'il reprend des couleurs. Ces taches solaires qui avaient disparu, donc, eh ben, ce n'est rien de grave, docteur. D'après les spécialistes de la chose, c'est même tout à fait normal. L'activité solaire, on le sait, connaît des hauts et des bas tous les 11 ans environ. Et l'année 2008, qui fut la moins chaude des 10 dernières années sur Terre, eh bien restera dans les annales de la météo spatiale comme l'une des plus calmes depuis une bonne centaine d'années. Alors un calme dont on ne se plaindra pas, puisque c'est bien connu, quand le Soleil éternue, la Terre s'enrhume. Le cauchemar au paradis du GPS et des réseaux satellites, voyez-vous, ce sont les éruptions solaires et les orages magnétiques, ces tempêtes de l'espace qui vous font aussi de magnifiques aurores boréales, mais qui vous brouillent les communications et vous grillent les circuits, pire que la pub à la télé, les cerveaux disponibles. Pourtant, le soleil, c'est un excellent remède. On le sait, contre la morosité ambiante, c'est une valeur sûre des civilisations. Les Égyptiens, les Celtes, les Mayas, les habitués de la Croisette et de Roland-Garros ne s'y sont pas trompés. Le soleil qui nous fournit aussi une énergie propre et quasiment inépuisable. Énergie fort bien utilisée par nos amis les plantes, des terris sur le Pas-de-Calais, au jardin potager bio que nous visiterons dans quelques instants. Et qui sont la preuve que notre petite planète, eh ben oui, on peut vivre de soleil et d'eau fraîche avec. Et ce, contrairement à ce qu'affirment Monsanto et compagnie dans une lettre de réclamation adressée ces jours-ci à Michelle Obama. Parce qu'avec le potager bio de la première dame des États-Unis, eh bien qu'elle a installé dans le parc de la Maison-Blanche, comprenez-vous, elle risque, et là je cite, de donner au public une mauvaise image de l'agriculture dite conventionnelle, avec ses engrais, ses pesticides, ses produits sains et savoureux et plus économiques. Bon voyons, merci beaucoup. Bref, chlorophylle, photosynthèse, glucose, fructose, j'en passe. Hommes, plantes et animaux, nous carburons, on le sait depuis très longtemps, directement ou indirectement, à l'énergie solaire. Hormis peut-être quelques Gaulois et X-Men qui sont adeptes du tout nucléaire. Et pendant que ceux-là, fièrement campés sur leurs réacteurs de troisième génération et leur tas de déchets radioactifs, regardent passer le train des énergies renouvelables au Portugal, en Espagne, aux États-Unis et bien ailleurs, et bien les compagnies d'électricité s'équipent en capteurs solaires à tour de bras. Dernier en date, c'était mercredi, un contrat de 1300 MW d'énergie solaire pour la Californie, ce qui nous ferait un petit EPR de moins pour la planète. Alors j'oubliais, aujourd'hui et demain, c'est donc la fête de la nature. Et nos amis de Terre Sauvage, notre partenaire donc, qui participe activement, et à vous qui partez sur les chemins à la rencontre des prairies, des forêts, des fleurs, du bruissement des ruisseaux et du chant des oiseaux, tout ce que l'on vous souhaite, c'est le soleil en prime. Alors, au cours de cette émission, eh bien, ce sera à la fois jardin bio, potager bio à tous les étages. Ce sera en compagnie de Philippe Pelland, de Michel Lys qui nous rejoindra, de Claude-Marie Vadreau qui a écrit « La France au jardin ». Et puis de nos amis de 60 millions de consommateurs parce qu'ils viennent de sortir un excellent ouvrage, une revue donc, qui s'appelle « Le guide du jardinage écologique ». Nous y reviendrons. Je vous ai promis une petite balade, tenez, écoutez.
Ces millions de mètres cubes qui ont été extraits du sol sont passés par les mains d'un mineur.
C'est chargé d'une histoire folle.
Vous savez que c'est le sang, les larmes des mineurs qui sont là-dessus. Donc c'est des monuments qui deviennent, tout doucement, après la fin de l'exploitation, qui sont reconquis par la nature. Ça devient maintenant parmi les endroits les plus riches, au point de vue écologique, biodiversité, du bassin minier.
Je vous emmène dans un endroit à la fois très très raide, on va fêter cette fête de la nature et donc cette biodiversité de manière très étonnante mais sur un terril. Oui absolument, dans le Pas-de-Calais, ce sera sur le 11-19, je vous expliquerai pourquoi il s'appelle ainsi, à Los Angeles en compagnie de Vincent Coé. Mais on va débuter, avec un homme quand même, c'est ça. Depuis longtemps, il a commencé à 3 ans dans son jardin de Rodemack, Jean-Marie Pelt. On va ouvrir notre abécédaire de l'environnement avec la lettre O, Jean-Marie, la lettre O comme orchidée, vous connaissez bien.
Alors les orchidées, c'est mon cœur de métier. Elles ont fait ma carrière, parce que j'ai raconté plein d'histoires.
Ce n'est pas France Inter qui a fait votre carrière, c'est pas nous.
C'était avant. Ouais, mais... C'était après mai 68.
Ah oui, j'étais pas né.
Parce que j'avais fait un bouquin qui s'appelait Évolution et reproduction des plantes. Et mon éditeur a dit, mais Jean-Marie, écoutez, reproduction, c'est sinistre. Nous sommes après mai 68.
Ah oui.
Évolution et sexualité des plantes.
Allez, peace and love, on y va. Oui,
les fleurs sont les organes sexuels des plantes, oui. comme chacun sait. Alors, sur les orchidées, il y a 20 000 espèces d'orchidées. Mmh. C'est la plus grande famille botanique. C'est la famille des marguerites, les composées, Astéracées aujourd'hui. Ce sont les deux plus grandes familles botaniques. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'espèces d'orchidées. Mais on savait très peu de choses sur leur histoire. Quand sont-elles apparues? Pourquoi on sait peu de choses? Parce que les herbes, et encore pire, les fleurs, ne se fossilisent pas. Oui. Ce qui se fossilise, c'est le bois. C'est les troncs. Mmh. Alors, les petites herbes, on n'a pratiquement pas de fossiles. Ce qu'elles laissent, ce sont leurs grains de pollen.
Et là, nous avons une actualité.
Et là, nous avons absolument une actualité. C'est qu'on a trouvé tout récemment des pollens d'orchidées sur le dos d'une abeille qui a été emprisonnée dans de l'ambre, qui est une résine qui se durcit en séchant, et l'abeille s'est fait prendre dedans. Mmh. Et elle avait sur son dos du pollen. On a regardé de près l'abeille, elle n'avait pas de dard, c'était des abeilles anciennes. D'accord. Elle ne piquait pas encore autrefois. Oui. On a regardé le pollen et on a vu que c'était un pollen d'orchidée. Pourquoi ? Parce que tous les grains étaient soudés ensemble. Mmh. Et que ça, c'est une caractéristique des orchidées qui mettent tout leur pollen sur le dos d'un seul insecte. Et ça s'appelle la pollinie, c'est un petit sac, comme nos petits jeunes ont tous un petit sac sur le dos.
Bien sûr.
Les insectes ont un petit sac de pollen comme ça sur le dos.
J'aime vos comparaisons.
Ah ben oui, c'est comme ça.
C'est ça.
Alors, la position de ces masses de pollen était très intéressante parce que ça voulait dire que l'abeille avait été chercher ce pollen dans la gorge de la fleur. Donc c'était une fleur profonde.
Oui, gorge profonde.
Une gorge profonde, absolument. Et on a daté ce fossile, disons, de 15 à 20 millions d'années.
Oui.
Alors, c'est pas très vieux, parce que les fleurs ont commencé à apparaître sur la Terre, en même temps que la prolifération des insectes qui les pollinisent, il y a plus de 100 millions d'années.
Oui.
Donc, c'est un fossile assez jeune. Alors, à partir de là, il y a eu tout un travail qui a été fait sur l'historique des orchidées. On a retrouvé des vieux grains de pollen, etc. On pense qu'en gros, elles sont apparues, disons, il y a 80 millions d'années, mm-hmm. à peu près. Donc, un peu plus tard que les autres. Donc, disons que c'est des fleurs modernes,
oui.
si l'on peut dire, malgré leur âge. Mm-hmm. Elles sont relativement modernes. Et alors, elles ont pris un essor très important après la chute de la grosse météorite qui a été responsable de l'extinction des dinosaures.
On va dire 65-70 millions d'années.
Absolument. Et à ce moment-là, les gros dinosaures ont disparu, donc les petites souris, les petits mammifères ont pu se développer.
Et nous aussi.
Parce qu'ils n'étaient pas étouffés par ces monstres encombrants qu'étaient les dinosaures. Et il semble qu'il y ait eu aussi à ce moment-là une sorte de boom des orchidées.
Mmh.
Et donc, orchidées et nous, ben, nous sommes ce qu'il y a de plus moderne dans l'histoire de l'évolution. Les orchidées trônent tout à fait au sommet du règne végétal. Vous me disiez quand ça a commencé il y a 3 milliards d'années avec les premières plantes chlorophylliennes dans la mer qui étaient des bactéries. Mmh. Même des bactéries primitives. Donc les plantes, c'est très très ancien, mais celles-ci sont très récentes. Et nous, nous sommes très récents aussi. Oui. Nous avons, en tant qu'espèce, on a 200 000 ans. C'est très très récent. Donc, comme je l'ai souvent dit, quand on regarde une orchidée, on voit ce qu'il y a de plus moderne dans le monde végétal. Et l'orchidée, quand elle nous regarde, elle voit ce qu'il y a de plus moderne dans le monde animal.
Oui.
Et alors, nous avons des tas de points communs. Enfin, on va en voir un seul, c'est l'art de faire travailler les autres. Alors, les orchidées sont extrêmement douées pour ça.
Nous aussi.
Nous aussi. Elles sont perchées sur des arbres, donc il faut un arbre qui les porte. Elles ont besoin pour que leurs graines germent d'un petit champignon, donc elles font travailler pour elles le petit champignon. Ensuite, elles ont besoin d'un insecte qui les pollinise, donc elles font travailler pour elles l'insecte. Et puis en plus, elles le manipulent, cet insecte, parce qu'elles se déguisent en insecte. L'insecte croit voir un partenaire femelle, se précipite, fait l'amour avec la fleur, laisse des spermatozoïdes et emporte du pollen. Donc l'orchidée, c'est très 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 bien faire travailler les autres, tout à fait comme nous. C'est des êtres très sophistiqués. Il y a des êtres un peu plus balourds qui se débrouillent tout seuls. Mais nous ne sommes ni des orchidées, nous, dans ce cas de figure. Et puis, si on dit que les orchidées sont très sophistiquées, disons que les sociétés humaines le sont quand même pas mal non plus. Et le deviennent de plus en plus chaque jour que Dieu fait.
Merci beaucoup, Jean-Marie Pelt, pour ces orchidées. Et puis, on se retrouve très vite, la semaine prochaine. Au revoir, Jean-Marie.
Au revoir, Denis. Au revoir à tous.
On the first part of the journey, I was looking at all of life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly above and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of a sound. It was good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, because there ain't no one for to give you the pain. La 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 la. After 2 days in the desert sun, my skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed. And the story I told and the river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been to the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, because they ring.
C'était Horace Andy sur France Inter avec son cheval sans nom, choisi par Emmanuel Chupin, notre programmatrice. Alors, au menu de cette émission, des jardins, des potagers plutôt bio. Bah oui, vous nous connaissez, on a quelques faiblesses comme ça. Avec à la fois le guide du jardinage écologique très bien fait de 60 millions de consommateurs. Et puis Claude-Marie Vadrault avec La France au jardin, histoire et renouveau des jardins potagers. Ça, c'est chez Delachaux et Niesley comme éditeur. Claude-Marie, bonjour à vous.
Bonjour Denis Chassoux.
Alors, vous êtes, on va le rappeler, vous avez été grand reporter pendant 25 ans au Journal du Dimanche. Vous travaillez aujourd'hui à Politis et aussi à Mediapart. Je tiens à signaler d'ailleurs que Politis, cette semaine, sort donc un numéro très intéressant sur la nature est en mauvais état. Bah oui, c'est quand même une réalité. Et puis aussi un numéro hors série. Quelle alternative, quelle résistance donc par rapport aux pesticides, par rapport à l'agriculture intensive, par rapport aux OGM. Ça, c'est en vente pendant 2 mois. La France au jardin, c'est ce qui est intéressant, c'est donc cette histoire des jardins potagers. Juste rappeler qu'en fait, déjà au XVIe siècle, le jardin, c'était le potager.
Bien sûr, on a commencé par le potager, le jardin de fleurs, le jardin plaisir, sauf pour fleurir les autels, c'est venu bien après. Effectivement, les moines avaient à la fois le jardin potager près de la cuisine et puis le jardin de plantes médicinales près de l'infirmerie, et c'était quelque chose de très important. C'était des jardins clos qu'on ne pouvait pas piller. Il y avait déjà cette idée de garder pour soi les légumes et les plantes médicinales. Mais le jardin clos, on l'avait également chez les Grecs et chez les Romains et même chez les Égyptiens.
C'est même la notion du paradis aussi, le jardin clos. Donc c'était ça aussi.
La légende du paradis le dit.
Voilà, absolument. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate? Parce qu'évidemment, on a ces jardins et ces potagers plaisir, et ça, c'est pas incompatible aussi avec le côté nécessité, mais quand même, de plus en plus, maintenant, on fait son potager pour quelles raisons?
Eh bien, moi, je l'ai constaté aussi bien dans le nord, dans le sud de la France que dans la région parisienne. Bon, les gens font un potager ou refont un potager, plus exactement, par plaisir, parce qu'il y a un certain plaisir à redécouvrir que les fruits et les légumes ne sont pas fabriqués dans les usines, mais poussent dans la terre.
Incroyable.
Mais c'est incroyable, n'est-ce pas? Mais il y a aussi la nécessité. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui m'ont dit, je pense dans les jardins de Stein, dans le 9-3 au nord de Paris.
Et 15 hectares de jardins familiaux à Stein. Hein,
oui. Et dans le nord, où il y a des surfaces encore plus grandes, les gens m'ont dit, bah, écoutez, partir du 20 ou du 22 du mois, eh bien, le jardin nous permet de continuer à manger. Alors, c'est finalement l'allusion à l'utilité du jardin pendant les guerres. Pendant la guerre de 14, le jardin potager a connu un boom extraordinaire. La même chose pendant la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, comme on est au cœur d'une guerre économique, d'une crise économique, eh bien, depuis quelques années, parce que ça ne date pas de 2008, depuis quelques années, les gens sont en train de redécouvrir leur jardin. Alors, c'est à la fois la nécessité et le plaisir, parce que maintenant, il commence à y avoir des bobos qui défoncent leur pelouse pour y mettre des poireaux.
Et oui, bien sûr. Et alors, le Nord était très, très en avance. Ça va me faire une liaison avec le sujet qui va suivre.
Bien sûr, les jardins ouvriers, maintenant on dit jardins familiaux, c'est plus correct. C'est plus politiquement correct de dire jardins ouvriers. Les jardins ouvriers ont été créés en 1896 par un prêtre, l'abbé Lemire, dans le Nord de la France. Et c'était à la fois pour procurer un peu de revenus à des gens, à des ouvriers essentiellement, ceux qui ont creusé les mines pour faire les terrils.
Et leur éviter d'aller trop dans l'alcool aussi.
Hein. Et leur éviter d'aller au bistrot et au syndicat.
Voilà, c'était ça. Alors, on va partir pour fêter cette fête de la nature, pas des jardins, mais aussi de la nature, hein, qui a lieu pendant ces 2 jours. Eh bien, on va prendre nos chaussures de marche et vous allez comprendre pourquoi.
Regardez Denis, s'arrête un tout petit peu, c'est super. Alors l'oiseau qui vient de décoller, ça ressemble à un merle.
Ouais.
C'est un merle, mais c'est pas notre merle classique. Ouais. C'est pas le merle noir, c'est beaucoup plus rare. C'est un merle à plastron.
D'accord.
C'est un superbe oiseau, on en trouve dans les Alpes, mais on en trouve aussi chez nous, en plein dans le bassin minier, en plein cœur du Nord-Pas-de-Calais. Et ces petits oiseaux qu'on est en train de voir remontent et vont nicher dans le nord de l'Europe, donc soit même au nord de l'Écosse ou surtout au nord de la Scandinavie. Et pendant leur migration de retour, ils s'arrêtent sur les terrils.
Bah c'est leur montagne. Ils se sont dit,
c'est leur montagne.
Voilà.
Ça, c'est, Alors, c'est leurs aires de repos.
Oui.
C'est un peu comme sur les autoroutes. C'est pareil c'est pour ça. Eux. C'est ça qu'on les défend aussi. Et donc, ils s'arrêtent là-dessus. Et parfois, on en compte des nombres assez importants. Les dernières, jusqu'à 40 ensemble sur le terri. Donc, c'est un peu notre... Nous, on ne voyage pas, on reste sur place, mais on voyage avec eux.
Vous l'avez compris, donc aujourd'hui, balade dans le Pas-de-Calais, dans l'Artois, dans la Goëlle, pour être précis, hein, c'est-à-dire effectivement la plaine sur cette chaîne des terris. On ne prononce pas le L, hein, nous, parisiens, parfois on dit les terris, mais enfin, on ne prononce pas le L là-bas. Et là, nous sommes sur un terri de première division, hein, comme à Lens, oui, qui est à nos pieds et qui remonte donc en Ligue 1. Alors, il reste moins de 200 terris aujourd'hui. Donc là, nous sommes à Los Angeles. Et c'est vrai que l'exploitation du charbon, quand on était dans le Nord, bah, c'était une parenthèse, si j'ose dire, de 270 ans qui a quand même fourni une énergie à la France et qui lui a permis de se construire. On était d'ailleurs sur des terres agricoles qui sont d'ailleurs toujours riches, mais qui étaient des marais, il y avait des zones humides donc, à l'époque, et puis donc on a pompé tout cela. Et donc là, on est donc face à ce terri qui est conique, c'est le plus haut d'Europe, avec Vincent Coé qui est naturaliste. Alors tout petit, donc, bah, c'est un garçon qui discutait avec les papillons, les tritons, les chauves-souris, d'ailleurs il continue. Il est aussi directeur technique du Centre Permanent d'Initiative à l'Environnement, donc de cette chaîne des terris à Los Angeles. Et donc, on va partir avec lui. On y va, on respire sur ce terri qui a un drôle de nom. Alors, Vincent Coé, on est sur ce lieu donc tout à fait original. On est en train de grimper un terril dans la région du Pas-de-Calais. Los Angeles est à nos pieds. Et on est en train de grimper le 11-19. Alors c'est pas très poétique comme nom, mais qu'est-ce que c'est le 11-19 ?
On est sur les plus hauts terris d'Europe. On va atteindre les 186 mètres d'altitude dans quelques temps. Et donc, alors là, c'est la référence directe à nos ancêtres, les mineurs, puisque le 11-19, ça correspond au puits numéro 11 et au puits numéro 19, ouais. Donc les puits de mine, dans lesquels on a extrait le charbon. Et une partie de cette matière extraite qui n'était pas intéressante, ont été déposés ici pour faire les terrils.
Ce sont les déchets en fait des mines, hein, les terrils.
Voilà, c'est ça. Donc c'est tout ce qui était les matières stériles,
oui,
de l'exploitation. Et les terrils sont un peu des... pour comparer, des espèces de grosses toupinières. Le terri, c'est un livre à cœur ouvert de tout ce qu'on peut retrouver comme l'histoire de la région.
Ah oui.
Par les plantes, on peut les retrouver sur le terri. Par exemple, la plante sur laquelle vous êtes en train
de marcher allègrement.
Alors que c'est une espèce protégée. Donc
bien sûr, bravo Denis. Alors,
en plus, on peut la goûter. C'est un bon petit goût.
Bah, vous me rassurez quand même, c'est vraiment.
Je la goûte. C'est de l'oseille. Alors, oui. C'est pas n'importe quelle oseille. C'est l'oseille à feuilles d'écusson. C'est une plante qui pousse à l'origine en montagne. Et la graine de cette plante est envolée par le vent et se retrouve un jour ou l'autre dans un bois de pins ou de sapins qui sont adossés comme ça à cette montagne. On vient couper ces sapins pour s'en servir dans le nord de la France.
Pour étayer
les galeries. Le bois va servir pendant 30 ans au fond de la mine. Un jour, il commence à faire un peu de bruit. On dit que le bois parle. Donc, il prévient le mineur qui risque de casser.
Oui.
Le mineur l'enlève, change le boisement, le met dans la berline. Ça remonte au jour.
Et ça arrive ici.
Ça arrive sur le terri. Et la graine qui est restée en attente,
oui,
trouve exactement ce qu'il lui faut sur le terri. Donc cette petite graine, et commence à germer.
Alors là, on attaque vraiment dans le dur, là. Ça y est. On n'est pas avec des talons aiguilles, hein. Ah, alors là, une ancienne traverse de chemin de fer que vous soulevez, parce que dessous, évidemment que ça peut être un abri pour un certain nombre de bestioles. Et
ah
oui,
ben là, super, regardez,
ça y est.
Hop, il est en train de se sauver, ouais, là, sous la pierre. Ça, c'est un petit lézard des murailles.
Petit bonhomme. Bah, oui.
Donc, alors, il n'est pas bien grand. C'est un...
bah, non, mais...
Il ne doit pas être très très vieux, celui-là. Il doit être de l'année dernière.
Il est bien, là, dis donc. Alors, on va quand même dire aussi une chose, c'est qu'il y a toujours en fait de la chaleur. Ça continue à chauffer dans les entrailles du terril, là.
On trouve en quantité importante, ce que j'ai dans les mains,
ouais,
la raison pour laquelle les mineurs travaillaient, c'est le charbon.
C'est ça.
Donc, des quantités importantes de charbon venaient sur le terri, jusqu'à 30%. Et oui, il y a un phénomène assez particulier d'autocombustion qui fait que le charbon va commencer à brûler sur le terri et à atteindre des températures très importantes. C'est un peu nos petits volcans. On On est sur un milieu très sec, le Thierry, c'est du minéral, c'est très très sec, c'est que des cailloux.
On fait attention parce que là on descend sec.
On va s'approcher un peu, voir ce qu'on trouve comme espèce sur cette zone. Et donc dans cette zone très sec, on a un point d'eau. C'est un peu nos oasis en quelque sorte. Et donc on a tout un tas d'espèces liées aux zones humides, des libellules, des batraciens, des crapauds, avec un peu de chance d'être en trouver un ou deux en train de s'accoupler. Ça en plein dans la période.
Ah oui, ça va faire monter l'audimat, ça va ça. Là, on est face à votre mare. Donc là, les batraciens sont en train de faire leur boulot. Ils se montent dessus tout à fait gentiment.
Ils sont juste devant là-bas. On va commencer. On va s'approcher. J'en vois deux, trois là-bas. Hop. Voilà, c'est un peu humide. On rentre dans la roselière. On va essayer d'en trouver quelques-uns.
Crapaud. Il est sourd.
Ah, devant, ça y est.
Ça y est.
Voilà. Donc là, on est au mois de mai, donc c'est pleine période des accouplements.
Des amours.
Vous voyez, on retrouve sur son dos une ligne jaune. Et ça a des superbes yeux, c'est qu'on prend jamais le temps de regarder les yeux d'un crapaud. Et c'est tout. On voit que c'est marbré. C'est doré carrément. Il a toutes les fameuses lignes jaunes sur le dos.
Pour ne pas se faire doubler, quoi.
Vas-y. Hop. Alors, on passe les pierres.
Ah, bah tiens, c'est rigolo ça. Qu'est-ce que vous ramassez ?
On trouve vraiment de tout sur les terrils.
Ouais.
Moi, ça, je pense que vous connaissez parce que
c'est un compteur de VTT, ça, ou de vélo, quoi, tout simplement. Je dis de VTT parce qu'ici, je vois très très peu de vélos de route quand même. Et donc, ça fait partie des circuits que vous avez aussi balisés, c'est ça ?
Alors, tout à fait. C'est vrai que le terril, c'est pas uniquement une réserve sous cloche. On trouve une nature intéressante, mais il faut quand même pas oublier qu'on est dans un secteur extrêmement peuplé aux alentours. Donc, il y a une forte demande d'espace vert dans la région. Les terrils deviennent aussi des formidables lieux de promenade, mais aussi d'activités sportives.
Si vous avez perdu un compteur, ami du Pas-de-Calais ou du Nord, on en a un dans la poche.
Voilà. Toutes les voies de chemin de fer qui reliaient les carreaux de fosse, les puits de mine entre eux, les terrils, qui permettaient d'acheminer le charbon, maintenant ne servent plus pour les exploitations minières. Ces voies maintenant sont reprises. Alors les Belges ont un joli terme pour ça, j'aime beaucoup, les trames lentes.
Joli.
Les voies lentes,
trames lentes. Oui.
Donc c'est pour les circulations beaucoup plus lentes, c'est-à-dire les piétons, les vélos, les personnes à roller, en poussette. Mais ça peut aussi servir de fameuses voies de déplacement pour les espèces animales et végétales, ce qu'on appelle les corridors biologiques, et donc sur lesquels on travaille beaucoup. Et ce qu'on voit juste devant nous, c'est un bon exemple, parce que cette fameuse voie verte là, qui serpente, qui rentre au cœur des agglomérations.
C'est bien.
Est en train d'être, alors en train de différer un terme un peu plus institutionnel, en train d'édifier le schéma de trame verte régionale. Et on réfléchit pour connecter les différents ensembles de nature de la région, en permettant le déplacement des espèces, mais aussi des découvertes plus légères pour les habitants de cette région.
Youpi. On y est. Arrivé au sommet, là, cette fois-ci. Donc, à quelle altitude nous sommes ?
Donc là, ça y est, nous sommes à 186 mètres d'altitude, sans compter par rapport au niveau de la mer. Quoi.
Et donc, du haut de cette pyramide, 150 siècles de travail de la mine dans les Pas-de-Calais nous contemple ou...
ouais, 150 ans.
150 ans,
150 ans de... Effectivement, de, on peut dire même quasiment deux siècles, presque, de labeur minier, de travail minier. Qui a complètement façonné le paysage. Tout ce qu'on voit autour de nous, ces chevalets là-bas au bout, les anciens puits de mine, d'anciens terrils qui ont été exploités.
Alors, il y a cette couleur très particulière, c'est-à-dire qu'évidemment on est sur du noir et sur du gris, mais comme nous sommes dans cette période de végétation, eh ben, on a quand même du vert pâle, du vert tendre qui ressort.
On a toutes les couleurs des verts pastels ici. C'est vrai qu'on a un impressionniste un peu au pinceau, comme ça, des petites touches de vert parmi les nuances de gris et de noir qu'on trouve sur les terrils. Nous sommes à 110 km de la mer, là, de la mer du Nord, donc on est vraiment tout près.
Ce qui est quand même incroyable, c'est que d'un lieu au départ qui respire le travail des hommes, le sang, la sueur, on va pas faire du Zola, mais ça devient un lieu de calme, de sérénité, de réappropriation, et ça je crois que c'est très important de le dire, pour les fils, les petits-fils de mineurs. Ils étaient fiers de leur boulot, mais ils sont fiers de ce lieu maintenant.
Alors tout à fait, c'est vrai que c'est un des plus beaux hommages qu'on pouvait leur rendre à ces mineurs. Alors, c'est vrai qu'on regarde les pierres sur lesquelles on est en train de marcher, toutes ces, ces millions de mètres cubes qui ont été extraits du sol sont passés par les mains d'un mineur.
C'est chargé d'une histoire folle.
Donc, c'est vrai que c'est, effectivement, vous avez raison quand on dit que c'est le sang, les larmes des mineurs qui sont là-dessus. Donc c'est des monuments qui ont quand même un intérêt patrimonial et qui deviennent, tout doucement, après la fin de l'exploitation, qui sont reconquis par la nature. Ça devient maintenant parmi les endroits les plus riches au point de vue écologique, biodiversité, du bassin minier. Alors ça donne beaucoup d'espoir quand on voit ça. On peut faire quand même des choses qui sont dégradantes pour la nature, mais si on laisse le temps après la nature de reprendre ses droits, de se réinstaller, qu'on laisse faire naturellement les choses, je dirais, on retrouve toute une explosion de vie. Regardez, là, on est en train de... On a un tapis devant nous.
C'est jaune partout.
C'est jaune, c'est tout jaune. C'est le tussilage, cette petite plante qui ressemble un peu au pissenlit. Oui. Bon, c'est une plante qu'on retrouve sur les zones des boulis aussi en montagne, qu'on trouve un petit peu partout, et qui a aussi le symbole de la reconquête naturelle des lieux.
Vincent, est-ce qu'on peut dire que nous sommes en train de marcher peut-être sur une future forêt ici, avec le temps ?
Ah, vous avez exactement raison, Denis, parce que c'est... Là, les terrils sont relativement récents. Les derniers dépôts, c'est 88.
Ouais.
Donc toutes les plantes qu'on voit commencent à recoloniser le site. Et on sait que le stade final du terril, le stade final de l'évolution, ce sera la forêt. Et on voit déjà commencer à apparaître, juste devant nous, par exemple, les premiers arbres qui arrivent. Alors d'abord les arbustes, là on a un églantier, mais un peu plus loin là-bas on a l'aubépine. On aura des chênes, des bouleaux surtout. Et si on revient dans 50 ans, dans 70 ans,
on y sera,
ce sera sûrement complètement boisé, une vraie forêt.
Et dans cet espace qui est dense, donc avec à peu près 300-350 habitants au kilomètre carré, on a soif évidemment d'espace vert. Donc ça nous montre comment une friche industrielle peut redevenir donc un poumon, un lieu calme d'ailleurs qui contraste avec les autoroutes, les voies rapides qui étaient à nos pieds. Donc à Los Angeles, dans ce département donc, du Pas-de-Calais, avec vraiment des dizaines de milliers de visiteurs tous les ans qui viennent là, sur ce 11-19 et puis aussi sur cette chaîne des terrils. Alors vous avez écouté Claude-Marie Vadreau et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a toute une flore, une végétation à laquelle on ne s'attend pas forcément.
Bien sûr, il y a sur ces terrils, sur celui-là et sur d'autres, il y a les orchidées qu'évoquait tout à l'heure Jean-Marie Pelt, les orchidées qu'on trouve partout en France.
Oui.
Si vous allez au parc de la Courneuve, dans le 9-3 au nord de Paris, vous avez des variétés d'orchidées. Si vous êtes sur les quais de la Seine, en cherchant bien, à la fin du mois de juin, vous trouverez quelques orchidées rouges. Mais attention, si vous êtes jardinier... Un jardinier responsable ne cueille pas, n'arrache pas les orchidées pour les remettre dans son jardin.
Mais là, on a cramé avec la température qu'il fait, parce qu'on l'a bien compris, avant l'extraction, avant la Deuxième Guerre mondiale, donc on laissait 30% de charbon. Et donc, c'est en train de cuire encore dessous, ce qui fait que vous avez une température qui permet l'implantation aussi de végétaux assez étonnants.
Absolument. C'est finalement comme à Tchernobyl, mais c'est moins dangereux.
C'est ça. Eh bien, voyez, vous gâchez tout. Oh là là là. Bon, on va vous rejoindre dans quelques instants, ainsi que Philippe Pellan qui nous attend à Aix avec le guide du jardin. Écologique, à tout de suite.
Qu'est-ce qu'on veut de mes incinérateurs, de mon 4x4, de mes OGM? Oh, pardon, j'ai dû me tromper d'émission. CO2 mon amour, Denis Chessoux.
CO2 mon amour, sur France Inter. You didn't look dapper in your mother's old green scarf with your famous auntie, Arthur's trousers on. You slapped by that slapper. Now we all laugh. She loved the loudest song in 93. Could charm the bee's knees off the beat. Cheeky, you'd say. And we all fell around, rolling around the playground. Saucy, you'd say. We all fell about, rolling around the playground. We all sang, skipping and dancing hand in hand. Yeah, it was all the boys together, and all the girls together. She's the last of the English rock roses. She's the last of. She knows a Rodney's from a Stanley's, a Kappa's from a Reebok.
it from the tat. And Winston's from a Enoch. It's finally daylight, coming out, coming alive. Around the snooker table, you dance the fruity tooty. She almost built a lager, toasting girls of great beauty. 2005, come of age, come of life. All the boys together, and all the girls together. She's the last of the English roses. She's the last of the English roses. She's the last of the English roses. She's the last of the English
C'était Peter Doherty en direct sur France Inter, CO2 Mon Amour, fête de la nature aujourd'hui. Je vous le rappelle, avec aussi donc ce numéro assez exceptionnel de Terre Sauvage, qui va vous emmener alors à la fois dans la Brenne, ah, très bien ça la Brenne, et puis aussi vous présentera des animaux tels la libellule, puis aussi on ira en Seine-Saint-Denis, bah justement vous en parliez, Claude-Marie Vadreau, la nature sème sa zone, donc ce département avec une fausse mauvaise réputation, eh ben, vous avez beaucoup de lieux de nature qui envahissent et qui reprennent aussi un petit peu leurs droits. Philippe Pélan est aussi avec nous, donc depuis France Bleu Provence à Aix. Bonjour Philippe.
Bonjour Denis.
Et vous avez rédigé une partie de ce 60 millions, le guide du jardinage écologique. Alors vous êtes éco-paysagiste à Aix. La semaine dernière, on faisait une émission sur études et environnement. Vous sortez du lycée horticole d'Antibes, c'est ça?
C'est ça, exactement.
D'accord.
Et puis après, et celui de Fonlongue aussi, à Miramas.
Et après, comment ça s'est passé? Donc vous étiez, j'imagine que c'était une vocation.
Hein. Oui.
Oui. Et après, vous avez créé votre affaire vous-même ou bien vous avez...
Non, j'ai commencé à travailler en tant qu'employé dans des petites pépinières du côté de Marseille. Il y avait encore des pépinières traditionnelles, on va dire.
Et puis voilà, puis vous y êtes arrivé.
Alors, attendez, fini. J'ai commencé à utiliser des produits de traitement.
Ah, voilà.
Voilà, donc je suis quand même passé par les traitements chimiques. Mm-hmm. Donc je peux en parler et... on ne peut pas dire que ça soit très agréable, surtout à utiliser en serre.
Oui.
Et c'est un peu ce qui m'a fait me remettre en cause, et qui m'a fait me diriger vers le jardinage bio.
D'accord. Alors là, maintenant, effectivement, ce numéro y est consacré. Quand on parle de jardinage, on va dire soutenable, durable, peu importe, ou bien bio, quelles sont les grandes idées qu'il faut déjà retenir?
Alors, les grandes idées, c'est de se passer, effectivement, de produits chimiques. Mmh. C'est ce que je fais. Donc, d'herbicides, de fongicides... de pesticides, mais là, on est allé encore plus loin, c'est-à-dire on veut se passer de tout traitement en prenant la nature comme exemple.
Oui.
Donc lorsque vous vous baladez dans un espace naturel préservé, vous pouvez observer une multitude de maladies, de parasites, mais elles ne prolifèrent pas jusqu'à menacer de disparition les espèces qu'elles attaquent.
Mmh.
Et contrairement à ce qu'on peut constater dans les jardins, qui sont mal conçus ou mal entretenus.
C'est-à-dire qu'en fait, la poursuite, et Claude-Marie Vadreau peut intervenir, la poursuite du puceron ou de la moindre tache de rouille sur les rosiers, c'est plus l'obsession dominante quand on fait un jardin bio, ou un potager bio.
Non, parmi tous les jardiniers que j'ai vus, effectivement, c'est une espèce en voie de disparition. Le traqueur de pucerons et de feuilles de rosiers abîmées, c'est en voie de disparition pour des raisons de tradition et d'âge et de nouvelles générations de jardiniers qui... comprennent qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment dans leur jardin. Et ça, c'est une tendance que j'ai rencontrée dans ces nouveaux adeptes du potager.
Alors, est-ce qu'on le fait d'abord parce qu'on a un autre rapport, on va dire, avec la terre et la nature, ça c'est une chose, et puis aussi pour des soucis d'économie, parce que de toute façon ça coûte cher ces affaires-là. Donc...
Alors effectivement, ces produits coûtent relativement cher, et aussi il y a une prise de conscience que nous nous empoisonnons, vous le dites assez souvent ici, nous nous empoisonnons lentement avec des produits dont nous ignorons les effets, les synergies, comment ils vont agir sur nos organismes. Donc les gens le sentent. Et s'ils font des fruits et des légumes chez eux, c'est pas pour acheter les mêmes cochonneries que dans les grandes surfaces.
Oui, où le goût évidemment n'est pas le même. Alors comment on opère pour vous? Quelles sont les grandes lignes qu'il faut avoir en tête, Philippe Pelland, pour bien comprendre ce qui se passe?
Donc, moi, ma base, c'est l'écosystème.
Oui.
Donc, j'ai bien observé ce qui se passait dans la nature. Et comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de prolifération parasite. Donc, je copie simplement. Je copie simplement ce que j'ai pu observer. Donc, je mélange les plantes et je mets un maximum de variétés de plantes, d'une part.
Donc, la notion de diversité qui est importante.
Oui, alors là, la biodiversité, c'est super important. Et d'autre part, je fais aussi ce qu'on appelle un mulch. Je couvre en permanence le sol pour éviter, d'une part, qu'il y ait la prolifération des herbes indésirables, d'autre part, pour conserver l'humidité. Là, ici, on est en Provence, donc c'est important.
Oui, mais ça va l'être partout.
Oui, je pense que c'est important. Et aussi, il faut savoir que le mulch, en se décomposant, va amener des éléments nutritifs au sol, qui vont permettre donc aux plantes de se développer harmonieusement. C'est des éléments, contrairement aux engrais chimiques, par exemple, qui vont se diffuser lentement dans le sol et qui vont apporter la totalité des éléments.
C'est-à-dire qu'à fois, bien sûr, ça recouvre et ça nourrit le sol. Donc, en français, on dit mulch et en anglais, on dit paillage. En gros, c'est ça, c'est le...
Non, en fin de compte, non, pareil, mulch, c'est du jeu français.
Oui, d'accord. Non, mais je veux dire que c'est la même chose. Le paillage ou le mulch, c'est...
Oui, mais je préfère utiliser le mot mulch parce que dans le mot paillage, il y a une connotation pailleuse.
Oui.
Et la paille, en fin de compte, elle devrait retourner à l'endroit où elle a été cultivée, à l'endroit où le blé a été cultivé.
D'accord.
On peut effectivement utiliser de la paille comme mulch, mais je préfère utiliser des matériaux que l'on va trouver sur son terrain.
Alors, c'est-à-dire aussi bien, ça va des feuilles mortes, les tombes de pelouse.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'on a d'autre?
On a le bois raméal fragmenté, c'est pas évident à dire.
Non,
moi, je préfère utiliser le mot broyat. Donc, c'est simplement du bois broyé. Oui. Alors ça, lorsqu'on fait l'entretien de son jardin, on peut effectivement broyer des branches. On récupère ces copeaux que l'on étale en surface pour jouer le rôle de couverture.
D'accord. Et sinon, pour nourrir le sol, parce que c'est intéressant aussi dans ce guide, c'est qu'on fait avec le sol, c'est-à-dire qu'on ne fait pas contre. Je veux dire que très souvent, dans l'agriculture intensive, je dis pas en permanence, loin de là, mais le sol est un simple support pour la plante. Là, il faut d'abord analyser son sol et se dire qu'est-ce que je peux faire avec lui. Et donc, une fois de plus, utiliser les plantes de la région, ne pas s'amuser forcément à amener des palmiers là où il ne faut pas. Quoi.
En effet, on prend des plantes adaptées. Alors, lorsqu'on ne connaît pas bien notre région, si on est touriste et qu'on veut s'installer à Aix-en-Provence, moi, ce que je conseille fortement, c'est d'aller voir les voisins et de leur demander, alors, qu'est-ce qui marche? Vous avez mis telle ou telle plante? Ah, la lavande, oui, effectivement, ça marche, ça marche pas. Avant, j'habitais à Paris, j'avais du mal à avoir des lavandes. Maintenant, je vais pouvoir en profiter, en mettre ici. Donc ça, d'une part. D'autre part, je conseille aussi fortement d'aller voir des pépiniéristes spécialisés. Mmh. Parce que maintenant... on trouve vraiment des plantes très, très adaptées qui ne vont pas être attaquées par les maladies.
Alors, Claude-Marie Vadreau, vous faites vous aussi votre jardin, je le sais depuis très, très longtemps.
Oui, mais je ne me permets pas de donner des conseils. J'observe les autres, ça me suffit largement.
Ouais.
Et je vois que les nouveaux jardiniers, effectivement, ils sont adeptes de la diversité dans leur jardin, qu'ils mélangent les plantes, les fruits, les légumes. Parce que c'est aussi très bon pour la biodiversité. Ça attire des oiseaux, des papillons, des insectes. Et puis les jardiniers, les nouveaux jardiniers, disons, ils font des essais, ils essaient sans arrêt de trouver de nouvelles cultures et de profiter aussi du réchauffement climatique.
J'aurai cette année quelques abricots que je n'aurais pas eu il y a 20 ans, probablement, dans le Loiret.
Voilà, et des chenilles processionnaires qui sont déjà chez vous aussi, peut-être.
Les chenilles, effectivement, on les voit arriver. Alors, c'est un problème, le face-à-face de la chenille et du jardinier.
C'est jamais très, très simple. Vous parlez très bien de l'idéologie du traitement, parce que vous dites que ça doit toujours avoir des effets instantanés pour correspondre aux besoins d'instantanéité de la société.
Bien sûr, j'ai un pépiniériste avec qui je travaille pour les greffes, qui me dit, mais j'ai encore des gens qui voudraient acheter les cerisiers avec les cerises dessus pour les planter.
À Noël.
C'est ça, oui, à Noël, oui.
Tant qu'à faire,
si elles ne viennent pas du Chili. Donc c'est ça, je veux dire qu'il y a une nécessité pour un certain nombre de jardiniers encore de se désintoxiquer, de réapprendre que il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'automne, il y a l'hiver, comme dirait Jean-Marie Pelt, et que tout ça est un rythme avec lequel il faut composer. Les radis, ça pousse en 15 jours, mais pas un noyer.
Voilà, donc la nature ne vit pas au même rythme que la société de consommation.
Entre deux avares, je me trompais de saison, et le printemps à l'inverse suspendait sa floraison. Dans le camp adverse se jouait une grande sécheresse, et ce ciel gris comble de paresse. Pour tuer le mauvais temps, je rêvais vertige et retour de vent dans mon cœur absent. Le printemps n'était pas arrivé, et c'était là toute mon erreur. Vouloir les premières douceurs avant que les fleurs ne se soient senties concernées. La 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 la, la 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 la. Une éclaircie au coin du mur me laissait imaginer un soleil plus chaud et plus sûr. J'espérais réveiller l'été, je voulais vivre l'aventure et changer le cours des saisons et faire partir la floraison des roses roses dans mon salon. Mais je me trompais de saison, aveuglé au moindre rayon qui me remplissait de bonheur, mais seulement pour quelques heures. Le printemps n'était pas. Et c'était là toute mon erreur. Vouloir les premières douceurs avant que les fleurs ne se soient senties concernées. La 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 la, la 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 la. Alors mon cœur, mon pauvre cœur, qui aimait tant le temps des fleurs, a perdu toutes ses couleurs, toutes ses couleurs. Sur la morte saison, la 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 la, la 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 la, la 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 la.
Elle faisait la la la, mais pas que, pas du tout. Non, c'était Changement de saison, interprété par Barbara Carlotti sur France Inter, dans votre jardin, dans votre potager bio. Claude-Marie Vadreau, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'autoconsommation, ou bien je ne sais pas, l'autoproduction, qu'est-ce que ça représente? Parce que ce n'est pas facile, évidemment, à quantifier, mais quand même.
Non, parce que ça ne passionne pas les économistes et ceux qui vendent. Mais disons que pour les tomates, on a une approximation, ça tourne entre 80 000 et 100 000 tonnes par an.
Ah oui, donc quasiment 10% là.
Quasiment 10% de la consommation totale des ménages. C'est, je crois, quelque chose de 30 000 tonnes pour les concombres, c'est-à-dire les légumes que l'on peut faire dans quelques mètres carrés sur sa terrasse quand on en a une, voire sur son balcon. Les tomates, c'est quelque chose de très facile. Et les gens ont finalement compris que c'était pas si compliqué que ça. On leur avait dit que c'était compliqué le jardinage, mais finalement, on fait pas de la production pour vendre, donc ceux qui poussent, poussent, et puis le reste, on recommence l'année suivante. Oui. On est patient.
Et quand on regarde parfois le courrier des lecteurs, ou bien effectivement les questions qui arrivent aussi sur France Inter, chez Baraton, puis avant chez Michel Lys, vous aviez des questions du genre « Mon cerisier donne des fleurs et pas de fruits ». Bon, et parfois, les mêmes personnes oublient que ce sont des engrais qui sont prodigués au gazon, qui vont créer ce type de déséquilibre. Donc là, ils redécouvrent une autre manière de faire.
Pour le cerisier, effectivement, et c'est évident, ça fait pousser les feuilles et ça élimine les fleurs et surtout les fruits après. Il y a une redécouverte, et dans toutes les catégories de la société, hein, des bobos aux gens qui ont besoin de leur jardin, il y a une redécouverte des rythmes naturels, et pour tout le monde, je crois, du plaisir de jardiner, de manger ce que l'on a fait pousser. Ça, c'est quelque chose qui ressort de toutes les conversations que j'ai pu avoir avec les jardiniers. Ils sont heureux. Et quand on est chômeur, pouvoir dire... J'ai produit des fruits et des légumes dans mon jardin, ça donne un sentiment de responsabilité, de fierté. On n'est pas inutile, on n'attend pas simplement le jour où on retrouve du travail, on fait quelque chose.
Et puis récemment, quelqu'un effectivement me présentait ses framboises et ses radis, donc il était tout aussi fier que s'il me présentait ses forcicia bleus. Hein, donc, peut-être pas les forcicia bleus d'ailleurs.
Non, ils sont jaunes.
Ils sont jaunes, c'est ça, je me suis dit, en lisant, je dis, oula.
Autrefois, on offrait des roses à ses invités, maintenant ouais. On leur offre des poireaux.
Ben voilà, c'est ça, absolument. Philippe Pellan, donc, alors peut-être effectivement quelques techniques, je ne sais pas, pour améliorer le sol ou bien d'autres conseils que vous avez, s'il vous plaît.
Donc, tout à l'heure, je parlais du mulch. Ouais. Ça, c'est la technique de base. Mais ici, vraiment, le sol est très pauvre. On peut utiliser du compost. Le compost que l'on réalise avec des déchets ménagers et qu'on laisse pendant 6 mois fermenter. Et puis après, on obtient un engrais naturel. Mm-hmm. C'est ce qu'on peut retrouver aussi dans la nature. Ça fonctionne très, très bien. Et surtout, ça ne crée pas de déséquilibre. Parce que lorsque vous utilisez des engrais chimiques, les plantes vont se développer avec exubérance et ça risque d'attirer justement les fameux parasites, oui. Comme les chenilles et les pucerons. D'ailleurs, j'ai une petite histoire à vous raconter à ce propos.
Ben oui, alors mettez-vous à la place d'une chenille.
Exactement.
Dites-moi tout.
Alors, vous êtes une chenille de pyrite du chou. Est-ce que vous aimez, c'est manger du chou?
Ben oui.
Avec vos copines chenilles.
Je suis assez monomaniaque comme chenille. Donc
oui, vous trouvez un chou, vous vous mettez à table et vous êtes nombreuses. Vous finissez le chou en 2 coups de cuillère à peau. Mais vous n'êtes toujours pas rassasié et vous cherchez un autre chou. Manque de bol, vous êtes tombé chez un jardinier dingue de biodiversité et le chou le plus proche à se mettre sous la dent est à 5 mètres de distance. Et pour y parvenir, vous devez parcourir une jungle constituée de plantes indigestes et malodorantes. Mais vous êtes courageuse. Ah oui. Et vous vous mettez en route. Tout à coup, une escadrille de guêpes prédatrices s'abat sur vos congénères. Intrépide, vous continuez, évitant les coups de bec des mésanges et des moineaux. Vous arrivez seul rescapé, exténué devant le repas tant mérité. Mais soudainement, la terre se met à trembler. Le chou s'élève dans les airs et vous entendez « Chérie, les chenilles ont l'air paresseuses cette année. Les choux sont intacts. »
Voilà. Eh ben oui, c'est ça, c'est morale de l'histoire. Quoi. Donc,
c'est ce que je raconte quand j'anime des stages sur le jardin.
Ben oui, parce que là c'est un beau raccourci, effectivement, de ce qui se passe. Claude-Marie Vadreau, pourquoi, en fait, jardiner écolo n'est pas une contrainte, mais plutôt une libération?
Parce qu'on n'a pas à se préoccuper de la quantité de la production, de la récolte. Vous savez, une fois que mes pommes de terre sont plus hautes que l'herbe, eh ben, je laisse l'herbe. Je n'ai pas besoin de me battre pour la propreté de mon jardin. Je crois que le jardinier écolo, il est débarrassé de l'idéologie de la propreté des jardins telle qu'elle avait été inventée par l'abbé Lemire dont nous parlions tout à l'heure dans le nord de la France. C'est fini le jardin propre. Alors, le seul déséquilibre qui reste dans les jardins potagers, c'est quand il y a, à côté d'un jardinier écolo, un jardinier qui utilise encore les produits. C'est la dernière guerre qui reste dans les jardins.
Voilà, c'est ça. Bon, on a quand même, hein, sur les, on va dire, 80 000 tonnes de pesticides qui sont utilisés, il y en a quand même pas loin de 8-9% qui sont utilisés quand même dans les jardins aujourd'hui. Et parce que le jardinier, il a quand même souvent la main lourde. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un coup de pchit, par exemple, il va en mettre 2 ou 3.
Enfin. Il se dit, si j'en mets plus, ça marchera mieux. Alors, bon, ça, c'est une tendance qui est en train de régresser, ce dont se plaignent d'ailleurs les vendeurs de ces produits chimiques. Hein. Il y a même des chaînes de magasins qui ont décidé maintenant de ne plus en vendre du tout de ces produits agressifs. Mais,
Botanique a été les premiers, ils ont été les premiers.
Voilà, les effectivement. Ouais. Mais bon, il y a une rééducation à faire. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, bon, ben, les jardiniers changent, les jardiniers vieillissent, ils sont remplacés par des jeunes pour qui c'est tout à fait naturel.
Voilà, donc il ne s'agit pas d'exterminer tous ceux qui volent, ceux qui vivent, ceux qui rampent et ceux qui poussent de travers. Mais écoutez, un grand merci à vous, Philippe Pellan, le guide du jardinage écologique 60 millions de consommateurs. C'est vraiment très bien fait avec plein. On a balayé uniquement une petite partie, hein, on s'en doute bien. Mais oui, il y a plein d'astuces. Claude-Marie Vadreau, La France au jardin, histoire et renouveau des jardins potagers, c'est chez Delachaux et Niestlé. Et alors sur le site de CO2 Mon Amour, vous verrez, vous avez plein de bouquins, hein, que ce soit ceux de Rustica, que ce soit ceux des éditions du Rouergue, de l'Espine, de Jean-Paul Torres, de Guide du Jardin Bio, édition Terre Vivante. Il y en a plein. Ça pousse. C'est étonnant. Dans le linéaire, actuellement, ils poussent des bouquins de jardinage, mais plutôt bio. C'est plutôt
ça
rassurant.
Ça prouve que le potager est en train de recouvrir la France.